Ô Dieu, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes encore dans cette nature si merveilleuse. Nous te prions de nous bénir de toute manière, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Que notre être tout entier soit renouvelé en ta présence et par ce contact de ta parole, dont les enseignements sont pour tous les jours de notre vie. Que ton esprit nous assiste, qu'il captive nos pensées et que nos cœurs soient ouverts pour recevoir des enseignements qui resteront gravés et qui influenceront notre vie pratique jusqu'à ce que tu viennes. Amen. Mes amis, ce matin du 25 juillet, ce sont donc les chapitres 8 et 9 de la deuxième épître aux Corinthiens qui sont proposés à notre méditation. Il s'agit de la collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem. Cette collecte qui tenait tant à cœur à l'apôtre Paul, cette collecte qui devait avoir pourtant pour lui des conséquences redoutables, puisque c'est à cette occasion, en portant cette collecte, qu'il fut arrêté et qu'allait commencer son emprisonnement à Césarée, qui durerait 2 ans, et puis son voyage à Rome, et son emprisonnement à Rome. Mais c'est pourtant grâce à ce temps passé en prison que nous avons les fameuses lettres, qui sont appelées les lettres de la captivité, que certainement nous n'aurions pas eu si Paul avait pu exercer librement son ministère. On ne peut pas être en voyage et écrire facilement. Alors au fond, les voies de Dieu sont parfaites et à la fin de sa course, vont regarder en arrière, Paul n'avait pas de regrets. Il pouvait dire qu'il avait achevé la course, qu'il avait gardé la foi et qu'il avait combattu le bon combat, que ce soit sur le champ de bataille ou que ce soit en prison. Mais revenons tout d'abord au chapitre précédent où nous avons pu nous rendre compte qu'un homme de Dieu, conscient de son appel et étant dans la main du Seigneur, dans la main du Christ, il sait qu'il ne doit chercher à aucun prix à se rendre populaire. En toute chose, le serviteur de Dieu doit avoir en vue le bien des âmes. Et nous avons constaté que Paul était comme un vrai père qui aime ses enfants et qui n'hésite pas, s'il le faut, à les discipliner en vue de leur bien. C'est ce que nous a montré cette lettre. Et c'est ce qui conduisait l'apôtre Paul en toute chose. Vis-à-vis de ses Corinthiens, mais vis-à-vis aussi des croyants des autres églises qui pouvaient se laisser surprendre par quelques fautes Vous voyez qu'il use de la même méthode en écrivant aux Galates, qui n'avaient pas les mêmes fautes que les Corinthiens, mais enfin, quand il devait les reprendre, il les reprenait aussi. Donc, Paul est un homme qui ose reprendre les âmes, et s'il les reprend, c'est parce qu'il les aime. S'il peut le faire de vive voix, il le fait de vive voix. S'il doit le faire par lettre, eh bien, son esprit, en quelque sorte, accompagne sa lettre. Et il se trouve présent avec ses lecteurs, même s'il est absent. Et dans son travail, nous l'avons vu spécialement en lisant le chapitre 6, il collabore vraiment avec Dieu. Qu'il soit présent ou qu'il soit absent, il collabore avec Dieu. Et son but, c'est que les âmes qui lui sont chères ne soient pas privées de la grâce de Dieu, qu'elles n'aient pas reçu la grâce de Dieu en vain. Il souligne tout ce que les âmes peuvent trouver dans cette grâce. Il ne faut pas seulement savoir quelque chose de cette grâce. Il faut réellement en vivre. La grâce les sauve, la grâce, comme nous l'avons souvent répété, les enseigne, la grâce les fortifie, la grâce les maintient debout, la grâce nous fait vivre, elle nous fait grandir, nous ne sommes privés d'aucune ressource quand on connaît la grâce, et finalement nous réalisons que la grâce est parfaitement suffisante. C'est ce qu'il a souligné au début de ce chapitre 6 que vous avez étudié. Et cette grâce qui est suffisante, c'est maintenant que nous l'avons. C'est dans le temps présent. C'est pour nous toujours le jour favorable, tant que nous avons compris que la grâce est en Jésus-Christ et que Jésus-Christ nous a dit « C'est encore aujourd'hui que je fais grâce. » C'est encore maintenant le moment de chercher Dieu. Un jour viendra le temps de la colère. Mais aujourd'hui, dans nos circonstances, eh bien, nous devons être les heureux bénéficiaires de cette grâce, de la plénitude de laquelle nous recevons exactement ce qui peut correspondre à notre besoin. C'est donc maintenant qu'il s'agit pour nous de glorifier Dieu et de manifester les caractères du Christ. Car ce sont là les caractères d'un vrai serviteur de Dieu. Les caractères d'un serviteur de Dieu dans son ministère, eh bien, c'est de manifester ce que Jésus nous a montré lorsqu'il était sur la terre. Et comme nous le disions, le seul joug que Jésus a porté ici-bas, c'était celui de son Père, faire la volonté du Père, était toute la pensée de Jésus. Aussi, il vivait en complète séparation du monde. Tout en étant dans le monde, il est dit qu'il était dans le ciel. Le Fils de l'homme, en étant dans le monde, était pourtant dans le ciel, parce que son cœur était dans le ciel. C'est pourquoi il pouvait vivre dans une séparation totale du monde, tout en étant proche des âmes, il pouvait vivre dans une liberté totale concernant la religion établie ici-bas, mais non seulement cela, il vivait dans une sanctification personnelle pour les autres, en vue des autres. Je me sanctifie, disait-il, moi-même pour eux. Non seulement sanctification au sujet du monde, sanctification au sujet du système religieux établi, mais une sanctification personnelle pour les autres. Et il voulait faire comprendre que la sainteté n'était pas un effort qui suivrait la justification qu'il venait nous apporter, mais que la sainteté était une marche qui découlait du fait qu'en nous rachetant, Jésus nous avait fait sien et que nous lui appartenions. Voilà ce que le Seigneur a montré. Et si vous le vouliez, vous pourriez faire une étude du chapitre 19e du Lévitique qui nous donne trois exemples très éclairants de ce que nous ne devons pas faire si nous voulons devenir ce temple de Dieu, comme cela a été souligné. Quand nous travaillons avec Dieu, nous n'acceptons pas de former dans le monde un attelage disparate. C'est ce que vous trouvez dans cet enseignement du Lévitique. On n'attache pas un bœuf, un âne à la même charrue. Si nous travaillons avec Dieu, nous ne faisons pas cela. Deuxièmement, si nous travaillons avec Dieu, nous ne semons pas dans le champ deux espèces de semences. Ça, c'est l'ennemi qui a fait cela. Dieu nous donne comme semence sa parole. Et si aujourd'hui, c'est le grand mélange, c'est parce que quelqu'un a jeté dans le champ une autre semence qui est livrée. Et alors, livrée et le bon grain sont mélangés de telle sorte qu'on n'arrive plus maintenant à reconnaître souvent un vrai enfant de Dieu d'un faux chrétien. Eh bien, nous devons comprendre que si vraiment nous travaillons avec Dieu, nous n'avons qu'une seule semence à jeter dans ce champ qu'est le monde, c'est la parole de Dieu. Tout le reste doit être considéré comme des semences de l'ennemi. Il y a toute espèce de doctrines qui sont jetées, qui sont semées et qui amènent la confusion. Cela peut avoir une apparence de christianisme, mais cela ne fait pas d'authentique chrétien. C'est pourquoi nous devons aussi connaître non seulement une sanctification vis-à-vis du monde, des principes du monde, de ce qui conduit le monde, mais vis-à-vis de certains principes religieux. Enfin, celui qui travaille avec Dieu, si nous travaillons avec Dieu, nous ne nous revêtons pas d'un tissu mélangé de deux espèces de fils, tissu mélangé de laine et de lin. Il y a dans tous ces textes de l'Ancien Testament, nous le croyons, un enseignement spirituel. Notre vie extérieure ne doit pas être une façade, elle doit être le reflet de notre vie intérieure. C'est pourquoi il est question d'une sanctification pratique, personnelle, de toute souillure, de chair, mais aussi d'esprit. Nous devons avoir vraiment toujours conscience que notre vie extérieure ne sera que le reflet de notre vie intérieure. Puis au chapitre 7, nous avons alors trouvé les résultats de la fidélité de Paul et de son amour pour les Corinthiens. La tristesse qu'il leur a causée a produit une vraie repentance, un retour sur eux-mêmes. Leur conscience avait été atteinte. Ils ne se justifiaient pas, d'après le témoignage de Tite, qui avait été envoyé vers eux par Paul, mais ils se jugeaient eux-mêmes. Ils entraient dans la voie de la véritable obéissance. Tite avait vraiment constaté les effets de cette repentance, et ce qu'il avait vu remplissait le cœur de l'apôtre Paul de consolation. Et c'est maintenant dans la joie, alors, que Paul peut leur parler du grand sujet qui l'occupe. Il peut, c'est le dernier verset du chapitre 7, il peut maintenant se réjouir, leur faire confiance et partager un projet qui lui tient à cœur. Chapitre 8. L'apôtre exhorte donc les Corinthiens maintenant à prendre part à la collecte en faveur des chrétiens pauvres de Palestine. C'est ce que nous trouvons des versets 1 à 15. Puis, dans la seconde partie de ce chapitre, il recommande les personnes qui doivent recueillir ces dons. Et je suis toujours profondément édifié quand je lis ce que Paul dit de ses envoyés qui devaient donc recueillir de l'argent, des dons, pour subvenir aux besoins des saints à Jérusalem. Ils n'ont pas envoyé n'importe qui, mais ils ont envoyé des hommes dont Paul peut dire, je pense que ça vous a édifié vous aussi, qu'ils étaient la gloire de Christ. La gloire de Christ. Même si leurs noms ne nous sont pas donnés, même s'ils restent pour nous des inconnus, quoique certains ont pensé que l'un de ses envoyés était Luc, le médecin bien-aimé, l'auteur des Actes, le compagnon de Paul. Mais enfin, justement, si Luc est l'auteur des Actes, il ne mentionnera pas son nom. Étant donné ce que Paul dit peut-être de lui. Dans une lettre, il l'appelle le médecin bien-aimé, mais là, il est nommé peut-être simplement le frère. Peu importe que nous ne connaissions pas son nom, hein. Dieu le connaît. Vous voyez, inconnu, mais bien connu. Ce qui compte, ce n'est pas qu'on connaisse notre nom, qu'on sache que c'est nous qui avons apporté cette offrande, mais ce qui compte, c'est que notre vie soit à la gloire de Dieu et que nous soyons disponibles pour n'importe quelle tâche que le Seigneur veut nous confier. Et si c'est une tâche qui paraît très matérielle, nous devons l'accomplir d'une manière spirituelle. Il n'y a pas une œuvre que nous ne puissions pas accomplir d'une manière spirituelle. Alors, voyons un peu plus près cette première partie, versets 1 à 15, où Paul expose les motifs de cette collecte pour les pauvres de Judée. Et il cite d'abord l'exemple d'autres églises, des églises de Macédoine, qui, bien qu'affligées et pauvres, ont donné avec joie abondamment, même, dit-il, au-delà de leur pouvoir. Demandons de pouvoir prendre part à cette bonne œuvre. Ces églises de Macédoine, dit Paul, eh bien, elles estimaient que donner était une grâce. C'est ça qui est beau. Ces églises estimaient qu'elles auraient été privées d'une grâce si on les empêchait de donner. Pour elles, donner, c'était une grâce. Alors, s'il en était ainsi, c'est qu'elles-mêmes s'étaient d'abord données au Seigneur. Et c'est cela qu'il faut souligner. Si pour ces églises, donner est une grâce, c'est parce qu'elles se sont elles-mêmes données au Seigneur. Et si elles se sont données au Seigneur, comme c'est aussi par le moyen de Paul, elles se sont données aussi à Paul et à ses collaborateurs. On ne peut pas se donner au Seigneur et refuser de se donner à ceux qui appartiennent au Seigneur. Mais c'est d'abord le Seigneur. Alors, celui qui s'est donné au Seigneur avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, ben, il n'a plus rien à lui refuser. Et il est prêt à faire la volonté de Dieu qui est toujours bonne, agréable et parfaite, comme le souligne Paul dans Romains 12, verset 1 à 2. Alors voilà pourquoi Paul et les siens avaient donc envoyé Tite. Et vous l'avez lu, Paul croit que, comme les Corinthiens abondent en d'autres dons, et il reprend au fond tout ce que Tite a rapporté de leur état spirituel, il croit que comme ils abondent en d'autres dons, et il cite en foi, en parole, en connaissance, en zèle, en amour pour eux, eh bien, ils croient qu'ils abonderont aussi en cette grâce, imitant ainsi d'autres églises, celles de Macédoine. Ils croient qu'eux aussi estimeront que de participer à cette collecte, eh bien, c'est une grâce. Et il dit, je ne pense pas que j'ai besoin de vous commander cela. Je pense que vous comprendrez vous-même que de pouvoir participer à cette offrande, ce sera une grâce. Et au verset 8, il montre, je n'ai pas besoin, ce n'est pas nécessaire qu'on vous commande cela. C'est assez pour eux de connaître la grâce du Seigneur Jésus. Je pense que vous aurez souligné ce verset. La grâce du Seigneur Jésus. Vous avez un exemple. La grâce du Seigneur Jésus. Il était riche, mais il a vécu dans la pauvreté afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Vous voyez, il y a toujours la personne du Seigneur et qui doit motiver, au fond, tout notre caractère. Si nous donnons, c'est pas simplement parce que nous aurions une générosité naturelle, mais nous avons l'exemple du Seigneur qui s'est appauvri en vue de nous enrichir. Et c'est par sa pauvreté, s'il n'était pas devenu le grand pauvre, nous n'aurions reçu aucune des richesses de ce Père des cieux. De sorte que Paul pense que ce simple avis, cette vision vraiment de la vie du Seigneur leur suffira. Et ils le croient parce que il leur rappelle que dans l'année précédente, ils avaient déjà commencé de récolter pour les saints affligés à Jérusalem. Alors, ce qu'il leur demande, au fond, c'est d'achever maintenant cette collecte selon leurs moyens. Selon leurs moyens, il souligne que Dieu ne demande pas au-delà de nos moyens. Car avec la bonne volonté, on est agréable à Dieu selon ce qu'on a, et non selon ce qu'on n'a pas. Il ne faut pas que les uns se mettent dans la gêne pour que les autres soient dans l'abondance. Quelle est la pensée de Dieu? C'est l'égalité. Et alors là, il revient toujours à l'Ancien Testament et il montre que comme les Israélites recueillaient la manne dans le désert, eh bien, c'était inutile pour l'Israélite d'en prendre plus qu'il n'en avait besoin. Parce que ceux qui ramassaient de la manne au-delà de leurs besoins, ils ne pouvaient pas la conserver. Et c'est pourquoi je me permettrai de vous signaler ce texte, parce que je suis un de ceux qui est persuadé que l'Ancien Testament nous donne les meilleurs exemples pour comprendre les vérités fondamentales, doctrinales du Nouveau Testament. Lisez au chapitre 16 de l'Exode. À partir du verset 15, c'est court. Les enfants d'Israël voient donc la manne. Et ils demandent qu'est-ce que c'est que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites virent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins, mais selon le nombre de personnes qui devaient être nourries. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Vous comprenez aussi maintenant la prière du Seigneur, donne-nous aujourd'hui le pain de demain, le pain de ce jour. Mais ils n'écoutèrent pas la voix de Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devient infect. Il y a un enseignement, si vous voulez méditer, ah bien, moi j'en garde, comme ça j'aurai peut-être pas besoin d'aller tôt demain matin pour en chercher, parce que je garde ce qui me reste. Non, le matin, c'est immangeable, ce qui est resté du soir. Donc il faut qu'il y ait renouvellement chaque matin. On ne vit pas des expériences passées. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Alors le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux omers pour chacun. Et pour quelle raison? C'était parce que c'était le sabbat. Alors à ce moment-là, ça se conservait. Voyez ce que c'est merveilleux. Quand c'est nécessaire, ça se conserve, mais autrement, eh bien, ça devenait infect. Donc, souvenez-vous de cet exemple. Je sais très bien que j'ai peut-être un peu irrité hier soir certains par cette longue lecture de l'Ancien Testament au sujet de Jéricho. Mais enfin, peu importe. Le Seigneur me conduisait comme cela. J'aurais pu, bien sûr, développer davantage l'histoire de Bartimée, mais elle est connue. Et un miracle ne s'explique pas. On contente et on glorifie le Seigneur. J'aurais pu aussi m'arrêter beaucoup plus longuement sur Zachée, mais cela, c'est votre travail. Ce que le Seigneur me montrait, c'est que vous puissiez voir l'unité qui existe dans l'Écriture et que il n'y a pas simplement les faits qui se sont passés à Jéricho au temps de l'incarnation de Jésus, mais il y a d'autres faits qui se sont passés avant l'incarnation de Jésus, dans cette même ville de Jéricho. Il est le Seigneur de gloire. Ah, si les Juifs l'avaient reconnu, si les Juifs avaient discerné en ce Jésus de Nazareth le Seigneur de gloire qui avait parlé à Moïse dans le buisson, qui avait parlé à Abraham, de telle sorte que Abraham avait vu son jour, et que Jésus pouvait dire avant qu'Abraham fût, je suis. Et Abraham s'est réjoui de ce qu'il a vu mon jour. Celui qui était avant Moïse, celui qui conduisait Josué à la victoire. Oui, il était là, dans son humanité. Et il montait pour donner cette vie victorieuse à la croix, pour qu'elle devienne, par sa résurrection, l'anneau. Voilà le sens profond de l'Ancien Testament. Alors, dans la deuxième partie de ce chapitre 8, versets 16 à 24, Paul recommande donc les frères qui devaient recevoir ces dons. Alors il commence par rendre grâce à Dieu. Et vous voyez comme dans cet épître, tout est attribué à Dieu. C'est Dieu qui a mis dans le cœur de le même empressement pour vous. Paul pense que maintenant les Corinthiens seront empressés à donner. Et alors, leur faisant confiance, il leur dit que Dieu lui-même, qui met certainement cet empressement à donner chez les Corinthiens, a mis aussi un empressement, le même empressement, dans le cœur de Tite pour eux, car il a accueilli notre demande. Parce que, au fond, Tite aurait pu dire à Paul, mais pour aller chercher cette collecte, tu peux envoyer quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un ministère qui est beaucoup plus important. Il n'est pas question de choisir notre tâche. Dieu peut nous employer un temps à la prédication, et puis il peut nous employer un autre temps dans une autre voie. Ce qui compte, c'est de faire la volonté du Seigneur. Et c'est cela qui est souligné. Alors, pour Paul, eh bien, c'est une action de grâce de voir la souplesse de Tite. Et il souligne quels sont les sentiments de Tite. L'apôtre et Timothée, donc, envoient avec Tite un autre frère, qui n'est pas nommé, mais qu'il dit avantageusement connu et choisi par les églises pour cette administration. Il est question vraiment d'une administration des biens qui appartiennent définitivement au Seigneur, aussi bien les choses matérielles que les choses spirituelles appartiennent au Seigneur. Et alors, les églises elles-mêmes n'envoient pas n'importe qui, mais ceux qu'elles choisissent comme ayant un bon témoignage, qui sont donc parfum, lettre de Christ, image du Christ. Et s'il a été choisi, ce frère anonyme, et s'il est ainsi envoyé, c'est pour que nul ne puisse blâmer personne dans cette administration et que tout se passe honorablement devant Dieu et devant les hommes. Qu'on ne puisse pas douter que ces personnes partiront avec la collecte. Ce sont des hommes éprouvés et qui n'agissent pas de leur propre volonté, mais parce qu'ils ont reçu cette mission de l'Église et plus encore du Seigneur. Et pour que, justement, personne ne puisse blâmer ce que Paul à cœur, il joint une troisième personne. Pour quelle raison? Parce qu'il est dit que toute affaire, pour qu'elle soit valablement reconnue, il faut qu'il y ait au moins deux témoins, et même trois. Sur deux ou trois témoins, toute affaire sera établie. Alors, pour qu'il n'y ait pas une occasion de blâme, il n'en envoie pas seulement deux, mais il en envoie trois, donc deux qui accompagneront Tite. Ils ont envoyé donc un autre frère qui est éprouvé et plein de confiance en vous, leur dit-il. Paul demande alors aux Corinthiens de recevoir ces deux frères avec Tite, car Paul écrit de tous, ils sont la gloire de Christ. Ça veut dire, ils glorifient le Christ par leur vie. Et c'est à la manière dont les Corinthiens les recevraient ces messagers, et à la libéralité de leurs dons, que les Corinthiens pouvaient prouver à la fois leur charité et la bonne réputation que Paul leur avait faite, parce qu'il s'était avancé auprès de ses envoyés, et il leur avait fait une bonne réputation. Voulez-vous changer un instant ? Alors, dans ce chapitre 9, Paul expose de nouveaux motifs en faveur de cette abondante collecte qu'il voudrait pour les saints de Jérusalem, et il nous montre qu'il lui serait inutile d'insister sur ce sujet, puisqu'il sait que leur bonne volonté s'est déjà manifestée. Cependant, s'il a envoyé Tite et ses frères d'avance, c'est afin que les Corinthiens soient prêts et que l'attente de Paul ne tourne pas en confusion en présence de ces églises de Macédoine. Il a tellement insisté, n'est-ce pas, que les Corinthiens donneraient, que maintenant il envoie donc cette délégation un peu d'avance pour qu'ils soient prêts, que tout soit recueilli pour qu'il n'y ait pas au dernier moment, justement, certains gestes, par exemple, ce que vient de me souligner Marie-Louise, qu'on doit donner au-delà de ses moyens. Et ça, c'est très actuel. On vient même vous dire que vous pouvez emprunter pour faire un don. Et c'est cela, oui. Emprunter, et c'est un don, et le Seigneur vous remboursera, et pour la banque, et pour vous, et vous donnera davantage. Voilà où on en arrive même dans certains milieux évangéliques. Vous pouvez arriver à mais ici, au Québec, nous dit-on, bien, tout le monde emprunte. Alors moi aussi j'emprunte pour faire un don, comme j'emprunterai pour faire un voyage. C'est-à-dire même si je n'ai pas le moyen, ça ira après. Mais, alors, c'est la bénédiction des bénédictions, d'emprunter pour donner. C'est incroyable. Et c'est pourtant ça. Le Seigneur ne vous demande pas de donner au-delà de vos moyens. Il ne va pas vous mettre dans une situation périlleuse. Suivez la parole. Et vous serez bénis. N'empruntez pas pour faire un don. Même si on vous le dit à la radio et à la télévision, dans certaines émissions religieuses. Que chacun donne abondamment selon quoi? Selon son cœur. Car Dieu est puissant pour vous combler de bien, comme il le prouve par sa parole et par ses dons dans la nature. Et alors maintenant, comme on revient souvent à l'Ancien Testament, eh bien, Paul insiste de regarder ce qui se passe dans la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et il prend l'exemple des semailles. Celui qui sème peu dans cette vie, ben moissonnera peu aussi dans l'eau. Et il nous montre plusieurs caractères et qui doivent nous conduire dans notre manière de donner. Il nous faut semer abondamment. Deuxièmement, il nous faut donner sans peine, ni regret, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Troisièmement, nous devons savoir que Dieu est tout puissant pour nous combler de toutes sortes de grâces, en sorte qu'ayant tout ce qui nous suffit pour notre existence temporelle, nous puissions alors abonder en libéralité. Et non seulement cette libéralité pourvoit à des besoins matériels, mais qu'est-ce qu'elle provoquera, elle provoquera des actions de grâce. Puis, cinquièmement, si elle provoque des actions de grâce chez les saints de Jérusalem, ces saints de Jérusalem qui sont touchés par la compassion de ces païens convertis, auront eux-mêmes à cœur de prier pour eux et de se livrer à l'intercession. Ces saints de Jérusalem verront que réellement l'Évangile a transformé le cœur des païens et les a amenés à être soumis aux enseignements du Christ, qui a dit lui-même qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et alors, il y aura une abondante intercession de ces gens qui étaient d'origine juive pour ceux qui sont d'origine païenne. Et comme on l'a dit, prier, c'est s'aimer au-dessus de la terre. C'est s'aimer au-dessus de toutes nos différences. Et tout cela va nous ramener à penser à qui? À Dieu qui nous a fait un don ineffable. Qu'est-ce que c'est ce don ineffable? C'est Jésus. Voilà, en quelques mots, ce que l'apôtre voulait nous enseigner. Maintenant, qu'avez-vous vu?
Nous avons trouvé le point. Le premier, c'est une grâce de Dieu de donner. Se donner premièrement soi-même avant de donner de l'argent.
Oui.
Se donner au Seigneur qui lui nous donne aux autres. Il est bien de dire à son frère, à ses pères, le cela doit s'accompagner d'un. De donner de notre nécessaire et non de notre superflu. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans obligation ni contrainte. Agir en tant qu'administrateur des biens appartenant à Dieu. Dieu nous donne pour que l'on donne en toute libéralité. Et à celui qui donne, Dieu donne généreusement.
Ouais. Merci. Groupe 2.
On a dit que d'abord, il faut se donner soi-même, Seigneur, pour pouvoir donner un espace. Puis on a dit que la libéralité, c'est quelque chose de spontané. C'est quelque chose de préparé, c'est pas quelque chose qu'on fait à la dernière minute.
Oui.
Un privilège universel, récipient pour donner. Puis que la plus belle viande de don qu'on a eu, c'est que le Seigneur qui se propose de rester le cœur par sa pauvreté.
Oui. Et c'est lui-même qui, regardant les gens qui faisaient leur offrande, a souligné que la veuve qui avait jeté seulement 2 pites avait donné plus que les riches qui ostensiblement faisaient de gros dons. Ce qui compte, c'est vraiment ce que le cœur donne. Groupe 3. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, ça c'est un bon point, hein. Il n'est pas dit emprunter, mais travailler. Au fond, c'est une grâce. de pouvoir travailler pour avoir quelques biens pour pouvoir donner. C'est une raison. Oui, il y a donc là aussi communion. Groupe 4.
D'après la
oui. C'est le capitalisme. Mais c'est vraiment beau quand la parole de Dieu commence à avoir autorité sur nos cœurs, comme elle nous transforme. Et nous montre le vrai chemin. Et ce qui était aussi souligné, travailler pour donner. Et peut-être que les prières seraient aussi exaucées, Seigneur, donne-moi du travail. Non pas simplement pour que je puisse vivre, mais que je puisse aider d'autres. Alors, le groupe suivant. Parce que c'est très important ce que vous soulignez là. Il faut autant de foi pour donner qu'il n'en faut pour recevoir. C'est pourquoi quand on nous dit que certaines personnes vivent par la foi, et on a toujours l'idée que ceux qui vivent par la foi, ben, ce sont des serviteurs de Dieu, vraiment spirituels. Eux, ils vivent par la foi, peut-être parce qu'ils n'ont pas de salaire. Mais c'est tous qui doivent vivre par la foi. Aussi bien celui qui a un salaire que celui qui n'a pas de salaire assuré. Parce qu'il faudra à celui qui a un salaire autant de foi pour donner une partie de son salaire assuré pour l'œuvre de Dieu, qu'il n'en faut à celui qui n'en a pas pour s'attendre à recevoir de Dieu ce dont il a besoin. Et administrer les biens, ça se fait pas n'importe comment, parce que quand on a de l'argent, eh bien, ça peut être vraiment difficile de savoir aussi à qui donner et quoi donner. Et il faut autant de prières à celui qui donne, qui envoie, qui soutient, qu'à celui qui s'attend uniquement à Dieu pour sa subsistance. Le juste vivra de foi et par la foi. Le groupe suivant. Ben voilà. Il faut donner avec sagesse.
faire une prothèse du cou qui dormait. Pour faire un équilibre entre les dents. Donc, c'est pas juste une question de dents d'argent, mais c'est pas autant des dents spirituelles que matérielles. Puis, c'est trouver une sens à vie.
Oui. Et on peut se souvenir de tout ce que Jésus, justement, a enseigné au sujet de l'aumône, de ne pas faire sonner la trompette. Et alors, celui, justement, qui ne sait pas connaître ses besoins au monde, parce que ça suffit quelquefois d'écrire une circulaire en précisant, on ne demande pas directement de l'argent, mais on dit tellement de points, hein, où nous nous attendons au Seigneur pour ceci, pour cela, que pour finir, on a fait sonner la sonnette. Hein. Et alors, ça met évidemment sur le cœur de certains d'envoyer quelque chose, peut-être. Mais celui qui aura encore cette confiance, au lieu de faire connaître simplement des besoins par circulaire, de dire, Seigneur, je te prends au mot, tu vois les choses dans le secret. Eh bien, je viens te prier et je t'expose ces besoins à toi. Et voilà ce que je me propose, mais pour cela, il faudrait cela. Alors, maintenant, je te demande, mais je ne le fais pas connaître au mot. Et que le lendemain, vous avez ce qui est nécessaire, c'est comme une confirmation que vous pouvez agir. Et cela vous prouve que Dieu existe et qu'il voit dans le secret. Parce que quelquefois, nous exposons nos besoins et ce n'est pas cela que Dieu voudrait pour nous. Ce que nous demandons, ce que nous attendons peut-être de nos frères, ce n'est pas cela que le Seigneur voudrait. Il voudrait toute autre chose. Mais ce que Dieu veut, il le donne. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Et de revenir vraiment à cette simplicité évangélique est une bénédiction. Le groupe suivant. Fini. Bien.
Votre réponse, ça peut dire que ce qui vous dit, vous en donnez au-delà de la proximité.
Eh bien, c'est justement ce que nous venions de souligner. Ils ont, je l'atteste, au milieu donc de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontiers, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, ils sont mis dans une situation telle que c'était eux qui étaient devenus indigents. Et c'est pas cela que Dieu demande. N'est-ce pas? Mais Paul en rend témoignage. Ce que le Seigneur recherche, c'est vraiment qu'il y ait égalité, mais il veut pas simplement qu'il y ait un appauvrissement, que eux deviennent indigents parce qu'ils soutiennent les autres. Et justement, de là est parti ce fait qu'on peut donner au-delà de ses moyens et qu'on peut même emprunter. Et c'est sur ce texte que plusieurs s'appuient. Non, c'est pas cela qu'il faut faire. Parce qu'il dit justement que Dieu ne demande pas que vous vous appauvrissiez, vous vous mettiez dans une situation précaire qui n'est pas à la gloire de Dieu non plus. Comprenez-vous? Parce que Dieu est un Dieu juste, un Dieu bon. Oui, mais ça, la grâce de participer, au fond, selon leurs moyens. Mais ce n'étaient pas des gens riches. Mais ils avaient ça à cœur, hein, de participer dans la mesure de leurs moyens. Ne serait-ce que deux pites, hein, la pite de la veuve. Oui. Voilà, c'est ça la réponse qui équilibre. Parce que, vous voyez, quand on fait la description, par exemple, d'une certaine situation, on en parle avec beaucoup d'émotion et on met aussi de l'émotion chez les autres. Et il y en a qui signeront même des chèques, hein, qui se révéleront peut-être être sans provision après. Ils s'engagent pour l'avenir. Et vous savez que c'est très commun maintenant. On vous envoie une liste et on vous demande de prendre l'engagement de donner tant par mois. Mais qu'est-ce que vous savez de ça? Qu'est-ce qu'il y aura dans un mois? Qu'est-ce qu'il y aura dans une année? Mais c'est devenu courant. Mais est-ce que c'est évangélique? C'est le monde peut faire ça. Mais est-ce que dans la vie avec le Seigneur, est-ce que nous pouvons nous laisser aller à cela? Même les collectes, vous savez comment en Amérique, dans les milieux dits évangéliques, ça peut se faire et ça s'est transporté en Europe. Le prédicateur se lève à la fin d'une mission, on a loué des salles à des prix exorbitants, puis maintenant, ben, il faut non seulement payer les salles, mais il faut payer aussi le voyage, les voyages. Alors, ça se passait en Suisse, à Lausanne. La salle est pleine, il prend un billet de 100 francs suisse. Puis il le monte. Qui est-ce qui dans cette salle a 100 francs? Qui est-ce qui dans cette salle a 100 francs? 100 francs pour le Seigneur. 100 francs pour le Seigneur. Puis il y a une musique douce, il y a tout ce que vous voulez. Puis évidemment, ben, en Suisse, il y en a qui ont un portefeuille. Alors, finalement, ils sortent, ils montent leurs 100 francs. Alors, on ramasse les 100 francs, pour ne pas dire les 500. Hein. Et puis, ensuite, il prend le billet qui vient après 100 francs en Suisse, c'est 50 francs. Qui a 50 francs? Puis il monte ce billet, et puis, alors on ramasse les 50 francs, et puis ensuite on continue avec 20 francs, et puis après avec 10 francs. Est-ce que c'est un moyen spirituel? Si vous saviez quel combat nous avons dû souvent mener au sujet des collectes. Parce que ceux qui organisent maintenant, eh bien, ils n'ont pas cette foi que le Seigneur, s'il ordonne, il donne. Alors on en arrive à dire, mais d'abord, bon, il ne faut pas qu'il y ait un tronc, parce qu'ils oublieront le tronc. Il faut des sacs. Et puis il ne faut pas des sacs en toile. Il faut des sacs qui ont des mailles. Hein? Vous comprenez ce que c'est, vous le dites aussi, ça. Hein? Des filets. Parce que comme ça, ils ne peuvent pas mettre des petites pièces. Hein? Ça va passer. Et alors, et on en met deux de chaque côté de la porte, un de ce côté, un de l'autre. Mon ami, c'était gratuit l'évangile, mais la sortie, drôlement payante. Il faut drôlement, pour avoir le courage de passer devant deux filets, serrer les fesses, pour pas ouvrir le porte-monnaie. Non, mais c'est très drôle. Mais on en est arrivé à ces moyens-là. Et un docteur, l'autre jour, me disait à Paris qu'à cause d'une mission, justement, un pasteur, jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'on l'avait nommé trésorier, puis on avait mal fait les calculs, enfin on était parti pour la gloire en disant le Seigneur va donner, puis le Seigneur n'a pas donné autant. Bien voyez-vous, quand c'est lui qu'on lui fait confiance, il n'y a pas de dette. Oui. C'est payant. Eh bien, je sais qu'un jour, ces hommes-là, comme moi aussi, je serai devant Dieu. La question, c'est est-ce que Jésus aurait fait cela? Est-ce que c'est à la gloire du Père? Qu'est-ce que le monde pense de cela? Et oui, puis quand on vous envoie une liste, et puis quels sont vos besoins spirituels, pourquoi voulez-vous vous prier, pourquoi voulez-vous nos prières, et puis vous cochez, hein, puis ensuite vous mettez votre chèque. Il est aussi mentionné, le chèque. Alors, plus il y aura de zéro à votre chèque, plus vous risquez d'être exaucé. Ça devient un trafic. Et un jour, nous devrons répondre. Seigneur, nous nous humilions devant toi profondément de tout ce qui se passe et de tout ce qui n'est plus à ta gloire, de tout ce qui est accepté, qui est admis. Et nous te demandons de nous sanctifier réellement au sujet de toutes ces choses. Donne-nous de ne pas nous autoriser à faire cela parce que d'autres le font, mais de revenir à toi, la source des eaux vives, et de nous détourner des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donne-nous de revenir au vrai fleuve et de croire encore ce que dit ta parole, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Amen.